Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Paroles d'Histoire. Podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et ravi de vous retrouver, André Loez, pour ce nouvel épisode du Fil de l'Épée, aujourd'hui consacré à un des chefs de guerre les plus importants du XXe siècle et qui pourtant n'a jamais combattu, en tout cas n'a jamais connu le feu directement ou si peu. Dwight Ike Eisenhower, le stratège et surtout le planificateur, on en reparlera parce que c'était vraiment son domaine, la planification et la logistique du débarquement de Normandie, mais pas que du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944.
Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hélène Arter. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1. Vous avez écrit de nombreux livres sur les États-Unis et tout récemment, une biographie donc intitulée Eisenhower, le chef de guerre devenu président aux éditions Talendier, qui donne tous les détails sur un personnage finalement assez méconnu en France, en tout cas par rapport à un de ses prédécesseurs et son successeur immédiat, Kennedy, qui l'encadre en quelque sorte et qui sont beaucoup plus familiers, sans doute d'une partie de nos auditeurs et auditrices. Et c'est un livre qui permet aussi de faire un portrait des États-Unis au premier XXe siècle et puis de raconter un parcours militaire à la fois emblématique et, comme l'a dit Alexandre, assez atypique. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce fait ? Eisenhower n'a jamais combattu. Vous qui l'avez étudié, quel est, vous diriez, le moment où il était le plus en danger physique dans une situation de guerre ?
Alors, c'est une question évidemment compliquée, puisque vous l'avez rappelé très justement, il n'est pas au feu en tant que soldat, hein, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Je pense que les moments les plus compliqués, finalement, c'est lorsqu'il débarque en Normandie, quelques jours après les autres, de manière extrêmement brève, hein, de manière symbolique, pour montrer finalement et matérialiser la victoire alliée, où les espaces ne sont pas sécurisés et donc là le commandant en chef est potentiellement en danger, mais ça ne va jamais plus loin que cela. Oui, les risques du métier, si l'on peut dire, sur le champ de bataille pour un commandant en chef.
Oui, il raconte à un moment qu'il a fait un atterrissage forcé, qu'il a dû marcher pour rejoindre une route et qu'il y avait peut-être des mines sur le chemin, mais voilà, ça s'arrête là.
Ça s'arrête là, puis un atterrissage d'avion un peu douloureux qui lui laisse des séquelles physiques, mais à aucun moment sa vie n'est véritablement menacé sur le champ de bataille.
Ouais, le contact le plus hostile et le plus offensif qu'il aurait eu avec des militaires, au fond, c'est peut-être sur le terrain de football américain, puisque c'est une autre... Non, mais c'est intéressant,
c'est vrai,
parce que c'est quelqu'un qui était passionné par le sport de contact par excellence, ouais. Et qui par ailleurs, on en reparlera, mais une métaphore de la guerre, et ça ne va pas être neutre dans sa carrière militaire, mais pourtant, ça va être en quelque sorte son engagement physique maximal dans les armées.
C'est vrai, et c'est une véritable souffrance hein, pour lui, c'est pas du tout un militaire qui fuit le combat. Au contraire, il le recherche. Pendant la Première Guerre mondiale, il essaye de court-circuiter même sa hiérarchie pour être déployé en France. Il a un premier espoir et puis finalement, c'est un autre qui va être envoyé sur place. On estime qu'il est plus important à l'arrière, notamment pour former les jeunes tankistes. Et puis, il a ce moment d'espoir fou. On est au mois de novembre 1918 où, ça y est, on lui dit « Vous allez y aller ». Sauf que, entre-temps, il y a le 11 novembre, donc ça s'arrête. Et il le dit, hein, il le dit à multiples reprises. En fait, il sent qu'il n'est pas un militaire complet parce qu'il n'a pas eu cette occasion d'aller au feu. Et par la suite... Les alliés britanniques, notamment Montgomery, ne cesseront de rappeler cela comme une faiblesse particulière. Et c'est vrai que le foot américain est cet espace où il va finalement s'exprimer de manière très forte dans l'armée, surtout dans ses jeunes années où il va être à la fois un sportif et puis ensuite un coach.
On va revenir sur ce parcours de façon chronologique. Peut-être juste avant, est-ce que vous pouvez dire un mot de la façon dont vous avez travaillé ? Parce que travailler sur un ex-président des États-Unis, c'est évidemment avoir une documentation gigantesque. Il y a des Eisenhower Papers, comme il y en a pour voilà, les différents présidents. Et il y a aussi pour lui des textes autobiographiques, notamment ce livre auquel j'ai fait allusion, Crusade in Europe, qui est à la fois une source importante, mais en même temps, qu'il ne faut pas toujours lire peut-être au premier degré, puisqu'il déguise peut-être un certain nombre de choses. Donc, quel recul vous avez eu par rapport à ces textes ?
Alors, c'est vrai que la première difficulté, c'est qu'on est noyé sous les sources. Ça, je crois que c'est vraiment le défi majeur. C'est pas la rareté, comme sur certaines périodes plus anciennes, mais c'est au contraire la profusion. Et ce qui m'a frappé, c'est très souvent la difficulté qu'il y a à faire la part des choses entre est-ce qu'on écrit la biographie d'un homme qui se trouve être le président, ou est-ce qu'on fait l'histoire de la présidence ? Et c'est vrai que c'est un débat que j'ai eu avec mon éditeur, qui a été de conseil extrêmement bienveillant et positif, pour savoir à quel moment il fallait trancher. Qu'est-ce qui était un peu plus important, l'homme ou finalement les politiques qu'il a portées ? En sachant que, paradoxalement, c'est un acteur public qui se livre extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il a cette règle de conduite. C'est pas du tout un homme de 2024. Il ne commente pas les choses. Quand il est en désaccord, généralement, il garde ses pensées négatives pour lui et il ne les exprime pas en public. Et il est très précautionneux de ce qu'il écrit parce qu'il a quand même le sens de la trace dans l'histoire et il n'a pas envie que les choses lui soient ressorties 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Donc il est très prudent sur ce qu'il écrit et il ne se livre vraiment qu'auprès de ses proches. Donc en fait, ses ouvrages, parce qu'il en a écrit plusieurs, hein, il a écrit cet ouvrage que vous avez rappelé, Croisade à la sortie de la guerre, il va ensuite écrire des mémoires présidentielles après 1961, un livre un peu plus intime à la fin des années 60. Et donc, en fait, bah, il faut essayer de croiser avec ce que d'autres ont pu dire, penser, écrire, en essayant de privilégier ce qui sont des écrits du contemporain. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes quand quelqu'un devient célèbre, c'est que tout le monde se rappelle l'avoir connu, met en avant des anecdotes qui, pour la plupart du temps, n'ont jamais existé. Donc, soit sont dans le très laudateur, ou à l'inverse, sont extrêmement critiques. Et j'aime bien cette phrase de Churchill, qui lui-même est en train d'écrire ses mémoires. Il est très embêté, il apprend que Eisenhower vient d'être élu président. Et il dit à un de ses proches, il va falloir quand même que je réécrive quelques pages, parce que voilà, ce que j'allais dire... Eisenhower, simple quidam, ça ne marche plus, Eisenhower président, parce que je pense à la relation entre nos deux pays. Donc, on voit bien, et c'est toujours le travail pour l'historien ou l'historienne de faire la part des choses entre ce qui est dit, écrit, et puis ce qu'on peut analyser à partir de là.
Il faut parler un peu des origines d'Eisenhower parce que c'est extrêmement intéressant sur sa relation à la chose militaire. C'est extrêmement intéressant aussi parce que ça dit des choses de la mutation militaire à 180 degrés que vont faire les États-Unis à l'échelle de sa vie, c'est-à-dire passer d'un pays non militaire, non militarisé, à un pays superpuissance au contraire. Et pour ça, il faut donc peut-être replacer... Mais c'est intéressant, son milieu familial est compliqué... C'est un petit-fils de... C'est-à-dire, à la fois, il y a de quoi faire la mythologie de l'enfant très pauvre qui a vécu dans une cabane en bois au bord des voies ferrées, et en même temps, quand on creuse, on s'aperçoit que son grand-père était quand même quelqu'un de très fortuné et que, en fait, les parachutes étaient bien dorés quand même. Enfin, il y avait des filets de sécurité autour de lui. Et surtout, il faut parler peut-être de son choix de la carrière militaire qui apparaît, en vous lisant, extrêmement baroque, au moment où il les fait, c'est-à-dire à la fin de au début de la décennie 1910, parce que militaire aux États-Unis, c'était pas une voie de garage, mais en tout cas c'était pas la voie pour une belle carrière, quoi.
Je trouve que c'est un beau résumé de la situation. Peut-être rappeler qu'il naît en 1890. Hein, alors ce qui le rend aussi intéressant, c'est la chronologie avec le général de Gaulle. Hein, ils ont naissent au même moment, académie militaire. Donc le jeune Eisenhower naît dans une famille mennonite. Son grand-père, Jacob, est un pasteur extrêmement respecté, qui a réussi. Son père, lui, au contraire, aura des échecs multiples. Hein. Donc cette famille est éminemment pacifiste. Alors la mère va en plus rejoindre les témoins de Jéhovah. Donc on voit bien que de tous côtés qu'on regarde, il est éduqué dans une famille où le pacifisme est la règle. Mais Voilà, il a son caractère propre, c'est quelqu'un qui est extrêmement sociable, qui se réalise très vite dans le sport et en particulier dans le football, et qui a une ambition, faire du foot et devenir un athlète. Et quand il fait un peu un état des lieux de la situation, à la fin des années 1900, bah, il se dit « il faut que je rejoigne une université qui a une équipe de football ». Vous voyez, la vie parfois est d'une simplicité confondante. Et puis, hasard de la vie, un de ses amis d'Abilène, hein, la petite ville dans laquelle il grandit, revient pour les vacances d'été et lui explique qu'il va passer le concours d'Annapolis, l'Académie navale. Et il lui dit « mais pourquoi tu ne ferais pas pareil ? Parce que Annapolis a une équipe de football extrêmement prestigieuse. West Point, l'académie qui forme les officiers de l'armée de terre, pareil, vas-y. » Et Eisenhower, qui a une forte personnalité, il a envie de réussir, il va mettre tout, les atouts de son côté. Il va finalement passer le concours d'entrée de West Point et être reçu.
Mais il y a un détail qui n'est pas inintéressant, parce que ça dit aussi quelque chose du numerus clausus et de la restriction que c'est l'accès à la carrière militaire à l'époque.
Ouais.
C'est que pour passer le concours des écoles d'officiers, il faut être nominé, il faut être nommé par le sénateur de l'État. Donc il doit faire une première procédure. Mais en fait, ça dit un truc, quoi. C'est pas un concours public, c'est il faut déjà avoir une première introduction pour avoir ne serait-ce qu'une chance d'entrer dans la carrière d'officier, quoi.
Alors, je pense que ça dit deux choses. La première, c'est le fédéralisme américain. C'est-à-dire qu'on est dans cette logique, il y a un certain nombre d'États et chaque sénateur a droit à un certain nombre de recommandations. Et donc, on estime que les académies militaires doivent être à l'image du pays et doivent représenter toutes les composantes du pays. Et la deuxième dimension, c'est que l'académie militaire, c'est un engagement fort, puisque on va défendre, c'est le devoir, c'est l'honneur, c'est le pays, c'est la devise de West Point. Et donc, il faut choisir des hommes qui sont révélateurs de ces valeurs morales. Et donc, il y a toute une dimension aussi dans le recrutement, puisque ces jeunes officiers potentiels vont aller devoir chercher des sortes de parrainage auprès des élites locales qui vont pouvoir dire cet homme a une grande valeur morale, a le sens du collectif, a le sens de son pays. Et donc, en fait, il arrive là par hasard, mais on a envie de dire pas totalement par hasard, parce que finalement, il a des valeurs, il a des compétences intellectuelles, il a des compétences physiques qui font que il correspond finalement au portrait de ce qu'est un jeune officier potentiel américain de ces années-là, hormis ceux qui appartiennent aux grandes familles comme les Patton. Hein, mais voilà, officier moyen, il ressemble en fait à un jeune Eisenhower.
Oui, c'est intéressant de citer Patton parce que c'est vrai qu'il y a des familles pour lesquelles il y a une évidence à faire la carrière militaire, notamment dans le Sud. Il y a des traditions, la famille de Lee, par exemple, il fait remonter ses origines même aux guerres civiles anglaises avant d'émigrer en Amérique. Là, c'est très loin de ça. Et sa famille, c'est des émigrants allemands à l'origine. Je voulais savoir si ça avait pu lui poser problème, le fait d'avoir ce patronyme germanique dans un pays deux fois en guerre contre l'Allemagne. Est-ce que c'est arrivé? Il y a un moment dans ses mémoires où il explique à Alger, en 1943, des gens font courir le bruit qu'il est juif et il doit un petit peu déminer la situation parce qu'il y a des tensions locales, juifs, arabes, qu'il faut faire attention à ça. Mais est-ce que le fait d'avoir un nom germanique a été mis en avant à un moment ou à un autre ?
Évidemment, oui, à des petits moments, mais c'est très, très secondaire. Et finalement, ça n'a pas été un handicap pour lui. De toute façon, on n'a jamais interrogé sa loyauté. Il faut se rappeler qu'en fait, il rentre à l'académie militaire avant le déclenchement de l'entrée en guerre. Donc, au moment où se pose la question de la loyauté des germano-américains en 17, il est déjà un officier qui a commencé sa carrière, qui est stationné au Texas, notamment. Et donc, la question ne se pose pas pour lui en particulier.
Alors, justement, il a 27 ans au moment où les États-Unis rentrent dans cette Première Guerre mondiale. On s'attendrait à ce qu'un jeune officier diplômé de West Point aille rejoindre les troupes sur le front. C'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive ?
En fait, cette armée américaine, qui est une toute petite armée, elle est à peu près au 15e rang mondial, elle se rend compte très vite qu'elle a besoin de cadres pour fonctionner. Donc, elle conscrit, elle a besoin, elle va à peu près à terme être composée d'à peu près 4 millions d'hommes. Et son problème, c'est pas tellement comment avoir 4 millions d'hommes, parce que la conscription va résoudre ce problème, mais d'avoir des cadres qui vont permettre de former, d'encadrer ses futurs combattants. Et donc, on regarde les dossiers militaires et on essaye d'affecter les plus compétents au poste où on a le plus besoin d'eux. Et ce que ses supérieurs ont constaté depuis qu'il a rejoint l'active, c'est que c'est un bon officier, c'est qu'il a le sens de l'organisation et qu'il aime bien ce qui est innovant. La question des tanks, hein, en particulier. Et donc, finalement, on se heurte à une réalité. Lui, il a envie d'aller combattre. C'est son rêve. Mais ses supérieurs estiment qu'il est beaucoup plus utile dans la planification, dans l'organisation et dans la formation.
Mais il faut dire peut-être encore un mot du football américain.
J'aime bien ça. Ne l'oublions pas, mais vous avez raison.
Mais d'une part, Alexandre est très frustré parce que le Super Bowl est passé. Donc, il faut attendre maintenant 6 mois pour le début de la saison.
Et alors, savez-vous qu'en fait, la bibliothèque Eisenhower... a tweeté avant la finale, puisque c'était Kansas City qui... Alors, Kansas City est au Missouri et pas au Kansas, mais c'est juste à côté, en disant « Ah, si Eisenhower était toujours en vie, il aurait soutenu l'équipe de Kansas City. » Donc, vous voyez, comme quoi, on est très près du sujet.
Ouais, mais non, mais parce que le football américain a par ailleurs une importance politique majeure,
tout
notamment dans le sud des États-Unis depuis l'époque, etc. Et puis, par ailleurs, ça dit quelque chose, c'est... Ben, on le voit en vous lisant qu'en fait, il a une importance. Donc, il s'est fait mal au genou, donc il n'est plus athlète. Mais il est devenu entraîneur.
C'est
ça. En fait, personne ne veut le laisser partir parce que c'est un bon entraîneur. Et que l'importance interbranche, interarmée des compétitions, des matchs et de qui gagne est en fait extrêmement important. Et quand on peut choisir parmi moult officiers pour les envoyer au front, on choisit de laisser le mec qui entraîne plutôt les bonnes équipes aux États-Unis, parce que c'est réellement important pour l'armée américaine.
Ah oui, il y a une dimension d'émulation, il y a une dimension aussi de valorisation pour les officiers, pour le commandant du camp, d'avoir une équipe qui gagne. On sait toute l'importance des matchs entre la marine et l'armée de terre. C'est quand même des moments extrêmement forts du calendrier. Et puis, si on se projette quelques années après, quand Eisenhower, président, a sa série, a des problèmes cardiaques, hein, une des premières choses que son médecin lui interdit, c'est de suivre les compétitions de foot à la télé, parce qu'il sait que c'est le moment où son cœur est le plus mis en danger. C'est pas les crises internationales type Suez, c'est dire que pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement central. Et vous l'avez dit très justement, parce qu'il voit dans le foot... une métaphore de la vie, c'est-à-dire du collectif, de la prise de décision, du fait de se soutenir les uns avec les autres, de l'engagement. Donc c'est ça qui a au-delà de la passion pour un sport.
Non, mais on peut se poser aussi des questions sur la transposabilité, parce que bon, quand on connaît un peu le football américain et la complexité folle que c'est de schémas tactiques, stratégiques, etc. Et quand on va en reparler, mais en fait son talent, ça va être ça. Ça va être d'organiser, ça va être de structurer, et ça va être aussi relativement de fédérer des petits groupes. Après, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi plein d'entraîneurs de foot qui, j'imagine, sont mauvais généraux. Il n'y a pas de fatalité à ça. Mais en tout cas, manifestement, il révèle certaines qualités qui ne sont pas totalement étrangères à celles qui vont faire son succès militaire après.
C'est ça. Et c'est ce que disaient déjà ses instructeurs à West Point, hein, de dire, bon, c'est peut-être pas le cadet le plus brillant, mais dans la pratique du sport, on voit poindre des qualités dont on sait que par la suite, on va pouvoir les mobiliser.
Cette Première Guerre mondiale, elle est marquée aussi bien sur le moment que dans les années qui suivent par le retour d'expérience, le retour du corps expéditionnaire, les leçons qui sont tirées. Vous avez parlé des blindés, est-ce qu'on peut dire un mot de leur importance? Parce que c'est l'une des grandes controverses de l'entre-deux-guerres dans toutes les armées. Que faut-il faire des blindés? Quelles leçons on tire plus ou moins efficacement de la Grande Guerre? On sait que du côté français, c'est pas là où on a été le plus efficace pour penser l'arme blindée de façon autonome, et on sait à quel point De Gaulle a lui-même un peu mythifié d'ailleurs son propre rôle, mais en tout cas, c'est vu comme prophète des blindés, sans faire un parallèle exact, est-ce qu'on peut dire qu'Eisenhower participe de ce mouvement moderniste attaché à faire de l'arme blindée quelque chose d'important pendant la guerre, au lendemain de la guerre ?
Oui, oui, tout à fait. On voit bien sur la fin de la Première Guerre mondiale, il va être affecté à ce premier régiment. Il va être notamment chargé de la formation des tankistes. Ça va être l'occasion pour lui d'avoir des contacts avec des officiers, notamment britanniques, parce que on a un problème de manque d'expertise et de manque de matériel.
Et il forme, soit dit en passant, donc des tankistes à des choses dont il n'a aucune idée
voilà.
lui-même.
Ah oui, mais... ça c'est clair. Et il le dit, hein, on n'a pas de manuel, on n'a pas de pratique, donc en fait, il va chercher des articles dans la presse, il va chercher des retours d'expérience de gens qui ont... Voilà, il essaye de trouver tout ce qu'il peut trouver qui va lui permettre d'établir une sorte de doctrine bâtie comme ça, vraiment dans une sorte de bricolage rendu nécessaire par les réalités de la guerre. Et puis, une fois la guerre finie, premier déchirement, on lui demande de démanteler ce qu'il a bâti. Alors que lui est persuadé que les chars, c'est l'avenir. Et donc, alors qu'en fait, les chars reviennent dans le lot commun et ne sont plus une arme en soi. Et donc, il y a ce moment extrêmement important pour lui où il va... discuter avec d'autres camarades, en particulier son nouvel meilleur ami qui s'appelle Patton. Hein, les deux hommes se rencontrent au début des années 20. Et de leur discussion va naître la conviction que c'est l'avenir de l'armée américaine. Donc Eisenhower va notamment écrire un article pour la revue de son arme. Patton va faire de même. Et c'est là que c'est un psychodrame, parce que les officiers supérieurs estiment qu'ils ne sont pas dans la doctrine de l'emploi de la force du pays, que c'est une sorte d'hérésie, qu'ils ont publié sans l'avis de leurs supérieurs, ce qui ne se fait pas. Et donc, on les menace de cour martial s'ils venaient à réitérer ce genre d'expérience. Alors Patton, lui, étant Patton, ne s'en préoccupe guère plus. Eisenhower, étant Eisenhower d'une nature prudente, se dit qu'il n'a pas les moyens d'aller contre l'armée. Et finalement, il va arrêter de produire sur ce sujet. Et il va être ensuite affecté sur d'autres postes où finalement la question des tanks ne sera pas centrale pour lui.
Ouais, c'est en fait son arrivée à Washington, son insertion à Washington, où d'ailleurs c'est tout à fait intéressant parce qu'il a une sorte de Sherpa qui est son frère, qui va faire une carrière absolument brillante aussi, mais du côté civil, parce que ça devient un très très bon communicant, mais en fait il va lui montrer un peu comment fonctionne Washington, et puis surtout ça va être, alors il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs tâches qu'on va lui donner à Washington, mais enfin dans tous les cas, c'est toujours des tâches de bureau, d'ailleurs vous écrivez qu'il est souvent en civil, il porte pas beaucoup l'uniforme ces années-là, et il va se révéler manifestement d'une très grande utilité. C'est intéressant parce que en vous lisant, on voit que partout où il passe, tout le monde l'adore. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne comprend pas très bien ce qu'il fait de si bien. Mais en tout cas, manifestement, tous ses supérieurs trouvent qu'il est exceptionnel dans toutes les tâches bureaucratiques qu'il lui confie.
Eh oui, c'est le mystère Eisenhower. La plupart du temps, il est affecté à des postes... Il n'est pas heureux de ses affectations. Il trouve qu'elles sont en deçà de ce qu'il pourrait faire, qu'il n'y a pas assez d'action. Lui aimerait être dans un régiment sur le terrain. Et ses supérieurs, eux, ont une autre vision des choses. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, à titre personnel, quand je l'ai écrit, c'est de découvrir ce moment washingtonien, c'est-à-dire autour de 1929. C'est-à-dire que, commençant cette recherche, j'étais sur des lieux communs de Eisenhower, débarque en Afrique du Nord en novembre 1942, sans trop me poser la question d'avant. Et d'avoir découvert qu'en fait, il était au sein de l'état-major dès 1929, mais en plus, il est dans une fonction qui le met en dialogue direct avec les autorités politiques. C'est-à-dire la Maison-Blanche, alors il n'est pas dans un stade décisionnel à ce moment-là, mais aussi le Congrès. Et c'est-à-dire que, en fait, dès 29-30, il sait ce qu'est le Congrès des États-Unis, il sait comment fonctionne une commission d'enquête, une commission du budget, une commission de la défense. On est en 2024, on le sait bien, il faut un budget pour faire fonctionner les choses. Donc, comment, quand on est un militaire, on va aller défendre son budget auprès de membres du Congrès qui considèrent que l'armée n'est pas une priorité? Comment on va aller travailler avec les industries? Ça, c'est très nouveau, c'est-à-dire... on ne parle pas de complexe militaro-industriel, évidemment. En ce début des années 30, on est en pleine crise économique. Comment expliquer aux entreprises, en pleine crise économique, qu'il y a un intérêt à aller fournir le gouvernement fédéral? Et puis la communication, vous le rappelez très justement, avec son frère, qui est le chargé de la communication du ministère de l'Agriculture, puis ensuite qui va avoir un rôle central pendant le New Deal. Donc, cette fonction extrêmement importante, il faut faire, mais il faut savoir aussi communiquer sur ce qu'on fait. Et finalement, ces années washingtoniennes, moi, je les trouve très, très intéressantes parce qu'elles posent finalement ce que va être l'homme qu'on connaît ensuite. Puis le côté populaire, sympa. Voilà, c'est celui dont on a envie de l'avoir dans l'équipe. Voilà, il a des compétences et en plus, manifestement, c'est chef en l'air d'ailleurs qu'il est agréable à vivre.
Il y a quelque chose de fascinant dans ce portrait que vous venez de faire parce que, on pourrait dire qu'Eisenhower synthétise, sans forcément le vouloir ou le prévoir, les qualités nécessaires au fait de mener une guerre au milieu du XXe siècle qui ne sont plus du tout celles qui étaient encore valables en 1900 ou même en 1914. Ce n'est pas un tacticien. Et d'une certaine manière, on peut voir le découplage entre Patton et Eisenhower. Patton était même au-dessus d'Eisenhower. Mais Eisenhower prend le pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un chef de guerre, un tacticien, un homme de terrain. Mais en revanche, il maîtrise les relations publiques, il maîtrise les rapports avec les politiques, les rapports avec l'industrie et toute la dimension économique de la mobilisation, la diplomatie. En dehors du fait que Patton n'ait pas de caractère diplomate, en plus, Eisenhower a développé des capacités diplomatiques parce qu'il était envoyé à l'étranger. Alors, on a d'ailleurs passé sur cet épisode, il faut en dire un petit mot, le fait de passer à Paris quelques mois au titre de la commission des monuments de guerre des États-Unis, notamment pour aller sur les champs de bataille, aller inspecter les cimetières, etc. Ça lui a aussi permis d'être en contact avec des officiels d'autres pays et de savoir comment faire. Et pour quelqu'un qui va ensuite mener une grande coalition, c'est un apprentissage extrêmement important.
Oui, on pourrait même le faire remonter quelques mois avant Paris, hein, puisqu'il est déployé au Panama au tout début des années 20. Donc le Panama, il y a la zone du canal qui est sous contrôle états-unien à cette époque-là. Et il y a notamment un camp militaire qui s'appelle Camp Gaillard, qui est chargé de sécuriser militairement le canal. Et donc c'est son premier déploiement à l'étranger. Il va beaucoup apprendre à ce moment-là. Puis ça va être suivi de ce moment parisien qui va durer presque un an. Hein. Donc il vit à Paris, il est en famille, hein, donc il a vraiment une immersion dans une nouvelle réalité et sociale et politique. Il essaye de parler français, sans beaucoup de succès, mais enfin au moins il essaye. Il lit la presse. Donc ça veut dire qu'il est au fait des questions qui préoccupent les Français en cette fin des années 20, il arrive à identifier un certain nombre de responsables politiques. Et puis, à partir de 35, hein, entre 35 et 39, il va être déployé aux Philippines. Il est le numéro 2 de MacArthur, avec pour mission de créer une armée. Et là, il va travailler avec le président philippin, Quezon. Hein, il a vraiment son bureau à côté du président philippin. Et il va comprendre qu'en fait, les questions militaires, c'est aussi de la diplomatie, qu'on ne peut pas dissocier les deux, finalement.
Mais ce passage aux Philippines, il est absolument captivant. Oui. Déjà parce que bon, ça l'attache à MacArthur, ancien chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, qui est, bon, il a une proximité avec ses grands personnages. Avant, il avait une proximité avec Pershing, etc. Il sait travailler avec des grands chefs militaires, il sait s'en faire aimer, ça c'est une chose. Mais surtout, c'est une tâche qui est folle et qui est complètement exceptionnelle. Et c'est vraiment, on a l'impression, centrale dans la construction de ses compétences qu'il va mettre en œuvre dans la Seconde Guerre mondiale. C'est il faut construire une armée philippine, depuis A jusqu'à Z. On part de rien. Et il faut imaginer les régiments, les unités, les bataillons, etc., etc. C'est un travail titanesque, complètement politico-militaire, effectivement, mais surtout, ça demande une sorte de vision organisationnelle complètement folle, et que alors après, ils ne vont pas du tout y arriver. Enfin, à la fin, ça plante toujours autant. Mais quand même, ça a l'air d'être un super exercice de pensée qui va se retrouver quand il s'agira d'articuler toute une coalition multinationale pour débarquer, quoi.
Ah, tout à fait. Et on voit bien aussi la cohérence des affectations militaires. Hein. Cette armée américaine, elle a très peu de moyens dans l'entre-deux-guerres, mais on ne peut pas dire qu'elle navigue à vue. C'est-à-dire qu'elle sait quand même où elle va. On ne l'a pas dit, mais peut-être le rappeler, hein, il passe par l'école de guerre dans ces années-là, qui est quand même le lieu de formation par excellence des futurs officiers supérieurs. Il n'y est pas arrivé par hasard, c'est qu'on avait déjà détecté ses compétences. Et finalement, les Philippines, c'est mettre en pratique ce qu'il a appris de manière théorique à l'école de guerre. Et peut-être la deuxième chose qui est importante dans cette aventure philippine, c'est qu'il apprend quelque chose de manière concrète, qui est la contrainte des moyens. C'est-à-dire que un de ses grands problèmes, c'est qu'il faudrait beaucoup de moyens financiers et qu'en fait, il n'y en a jamais suffisamment. Et donc, comment on arrive à faire avec cette contrainte ? Et on le voit bien, à la fin, on n'y arrive pas. Et c'est une des raisons, notamment, pour laquelle il va rentrer aux États-Unis, c'est qu'il a l'impression de vider la mer avec une petite cuillère et que, finalement, il le sait bien, cette armée philippine, elle n'est pas en capacité de faire face à la menace japonaise. Il faut rappeler d'ailleurs que le projet était un peu bâtard, puisqu'on demande de faire une armée philippine, mais il n'y a pas la dimension marine. Or, les Philippines sont quand même un archipel. C'est un peu difficile d'assurer la défense sans une marine puissante.
Sachant que celui qui était chargé de le faire, MacArthur, n'était pas forcément non plus le meilleur stratège pour l'imaginer. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot d'ailleurs de ces relations? Parce que là aussi, comme Patton, hein, c'est un peu une figure de double. C'est-à-dire quelqu'un qui a une carrière... parallèle plus importante antérieure pour MacArthur. Et MacArthur, il y aura aussi ce renversement de quelqu'un qui a été son supérieur et qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va se retrouver une position symboliquement moins importante parce que ce n'est pas le grand vainqueur. C'est lui qui a dû quitter les Philippines un peu en catastrophe, alors qu'Eisenhower émerge comme grand vainqueur. Est-ce qu'on peut dire un mot des relations entre les deux?
Alors, avec MacArthur, c'est extrêmement compliqué puisque MacArthur vient d'une famille de militaires. Hein. Son père a d'ailleurs été gouverneur militaire des Philippines. Il le sait et il a une suffisance qui va avec. C'est-à-dire que ce n'est pas le personnage le plus sympathique qui soit. Quand les deux hommes se rencontrent, la relation est complètement asymétrique, hein, puisque Eisenhower est un simple officier. Lui est déjà chef d'état-major, il est multidécoré, il s'est illustré en particulier en France pendant la Première Guerre mondiale. Donc on n'est vraiment pas dans une relation égalitaire. Et en fait, l'expérience philippine va d'une certaine manière remettre les choses plus à niveau. Et on voit bien que la difficulté, c'est que MacArthur a du mal à accepter cette nouvelle relation ou ce nouveau rapport de force. Il faut dire aussi que Eisenhower est un homme du dossier. MacArthur est un homme des grandes idées. Et finalement, quand il faut bâtir une armée, il y a un moment où le dossier finit quand même l'emporter sur les grandes idées. Donc c'est une relation qui est extrêmement tendue entre deux hommes qui ont des égos, parce que Eisenhower a un égo. L'historiographie a tendance à l'oublier. Et des manières de fonctionner qui sont différentes. Et puis un MacArthur qui n'est jamais vraiment dans la reconnaissance avec ses équipes. C'est-à-dire que tout finit par remonter à lui et il n'y a jamais d'espace pour les autres. Donc on est surtout en 38-39 dans une relation extrêmement conflictuelle. Et d'ailleurs, on est dans une forme de rupture, ce qui est, je pense, le seul cas de la vie d'Eisenhower où il est en rupture avec un chef de manière aussi marquée.
Il y aura Patton après, mais on en reparlera.
Alors, sauf que Patton, la relation est égalitaire. C'est-à-dire que les deux hommes ont quasiment le même âge, se connaissent, sont des égaux, sont stationnés dans la même base et ont une relation amicale, familiale. Et ils finissent.
Mais c'est intéressant parce que MacArthur, à bien des égards, c'est MacArthur qui dérape parce que. On ne le dit pas beaucoup.
Il dérape dès les années 30, en fait.
Ouais, et puis il a quand même plus ou moins trahi la patrie à un moment, puisqu'il décide de bosser exclusivement pour les Philippines au moment où refaire le dossier MacArthur.
Et c'est un des points de hiatus avec Eisenhower parce qu'on fait la même proposition à Eisenhower. Eisenhower dit, mais non, on est américain, on ne peut pas accepter une telle proposition. Non, on est fidèle à notre pays, ça ne se fait pas.
Et donc, il revient aux États-Unis à un moment où c'est... c'est aussi là que ça commence. La Seconde Guerre mondiale est le moment d'une ascension vertigineuse pour Eisenhower.
Rappeler que s'il est aux Philippines, alors c'est pour bâtir l'armée, mais on suspecte aussi que le président Roosevelt, c'est une manière de l'éloigner, parce que... On parle de MacArthur. Il sent que MacArthur a des ambitions politiques, qu'il se verrait bien président à sa place, et donc... L'envoyer aux Philippines, c'est le faire sortir du paysage. Il faut se rappeler que les Philippines, c'est plusieurs semaines de mer à l'époque. Donc en fait, quand il est envoyé aux Philippines, il est sur une pente descendante de sa carrière. Il a atteint le sommet qui est chef d'état-major. Après, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, il est plutôt sur la fin de l'histoire, alors qu'Eisenhower, lui, est plutôt sur le début de quelque chose.
C'est un peu comme le FMI à d'autres époques.
Puis vendre, une fois qu'on a atteint le sommet, vendre ses compétences à un pays étranger, c'est pas non plus quelque chose qui n'a jamais été vu ensuite. Mais donc Eisenhower revient aux États-Unis, revient et il commence en fait sans l'être réellement officiellement parce qu'on va pas faire appel à, je sais même pas, il est même pas général à l'époque,
non,
il est encore lieutenant-colonel.
Ouais, ouais.
pour construire le plan de mobilisation industrielle des États-Unis, puisque, rappelons, à cette époque-là, les États-Unis sont encore tout à fait isolationnistes, mais pas totalement idiots non plus, et c'est le moment où on commence à faire les grands plans, et là, sans que ce soit sa responsabilité directe, c'est quand même Eisenhower qui va en fait dessiner ce que va être la mobilisation et le changement radical des États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, selon une chronologie peut-être qu'il y a à repréciser pour vos auditeurs, hein, c'est-à-dire qu'il négocie pour revenir aux États-Unis en 1939 alors que ce n'était pas prévu, hein, il aurait dû rester aux Philippines plus longtemps. Il va aller de poste en poste, hein, on ne sait pas trop quoi faire de lui, il est trop qualifié, lui a envie d'aller sur le terrain. Et finalement, la guerre le prend un peu comme tout le monde par surprise, hein, en décembre 1941. Et c'est à ce moment-là que le chef d'état-major, Marshall, va décider de le faire revenir à l'état-major à Washington. Donc on est tout début, hein, décembre 41, sans vraiment de plan, sans vraiment de poste, tout est un peu flou. Et il lui confie une première mission, c'est de bâtir un plan de secours pour les Philippines, hein, puisqu'on se rappelle qu'elles ont été attaquées en même temps que Pearl Harbor, que c'est la catastrophe, que les limites de MacArthur sont en train d'être exposées aux yeux de tous. Voilà. Et donc ça, c'est sa première mission. Assez vite, Marshall, de toute façon, sait qu'on ne peut pas sauver les Philippines en l'état. Et donc, il va le charger de se concentrer sur cette question de la mobilisation militaire et en particulier des plans pour ouvrir le second front et puis aussi comment on va travailler avec l'armée. Donc en fait, ça se fait de manière assez rapide.
Il y a un épisode qui intervient juste avant Pearl Harbor, mais qui a son importance malgré tout pour celui qui était jusque-là un homme de bureau plus qu'un homme de terrain, c'est les grandes manœuvres en Louisiane. Il y a l'état-major de la 3e armée et on sent que la guerre s'approche inexorablement. On est en septembre 1941 et là, des grandes manœuvres avec des centaines de milliers d'hommes. C'est une sorte de répétition générale pour une armée des États-Unis qui n'a pas connu de grand engagement depuis la Grande Guerre. Quelle est l'importance de ce moment pour, disons, avoir la vision non plus théorique, planification de bureau, mais la vision concrète de ce que c'est que de commander une armée importante.
Et de porter un uniforme, pour une fois.
Et de porter un uniforme. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'au moment de Pearl Harbor, l'une des premières choses, c'est d'être en uniforme, parce que le matin, il n'était pas en uniforme. On voit bien, hein, comment c'est une rupture symbolique. Alors, peut-être rappeler à tout le monde la chronologie, hein, donc septembre 1939, début de la guerre en Europe. Pour les Américains, la première accélération, c'est autour de juin 40. Hein, la défaite de la France est un électrochoc, en particulier chez les politiques à Washington. Et donc, il y a des moyens qui sont affectés au réarmement. Et puis, il est décidé, ce qui est exceptionnel, qu'il va y avoir une conscription qui va être mise en place. On est en temps de paix. Et donc, en fait, cette conscription, elle commence vraiment à partir de septembre 40. Donc, il faut imaginer qu'entre septembre 40 et Pearl Harbor, décembre 41, il y a une montée en puissance de cette armée. C'est-à-dire que il y a une population isolationniste, mais qui l'est de moins en moins parce qu'elle voit l'actualité tous les jours. Et puis, il y a ce gouvernement fédéral sous la direction de Franklin Roosevelt qui met des moyens parce qu'il est extrêmement lucide sur ce qui va se passer. Et donc, cette armée, elle se prépare à faire la guerre, même si dans la tête de l'opinion publique, il n'y a pas la guerre qui va venir. C'est le paradoxe. Hein. Et donc, ces grandes manœuvres de Louisiane, bah, c'est une sorte de répétition générale, hein, vous l'avez dit très justement, où on a des plans de guerre, ce qui est très différent de la Première Guerre mondiale, on les met en œuvre, donc on voit ce qui marche pas, comment on articule les tanks avec les bombardements, la formation, etc. Et puis on teste les hommes pour voir ceux qui, sous la pression, sont efficaces, ceux qui sont moins bons, quelles sont les compétences. Donc c'est une sorte de... Voilà, c'est des jeux de guerre à taille humaine. Enfin, à taille humaine, le terme n'est pas bon, mais à grande échelle. Et donc on essaye, et Marshall le dit à un moment donné, hein, il vaut mieux voir ce qui ne va pas maintenant plutôt que sur le terrain. Et on est impressionné par l'ampleur du théâtre d'opération, le nombre d'hommes qui sont mobilisés. On parle de centaines de milliers d'hommes, hein. C'est plus que ce qu'on n'a jamais fait avant. Il y a de l'aviation, il y a des tanks, et puis le milieu qui est hostile.
Et là, c'est le moment où il y a quand même des moi, mais c'est pas la première fois. Enfin, ouais. Il y a des mois de... En fait, on le bouge en permanence d'affectation parce qu'il réussit partout. Mais ça, c'est vraiment la question que je me posais en vous lisant. Je sais pas qu'est-ce qui réussit si bien. C'est-à-dire, c'est manifestement, tout le monde autour de lui, et notamment les gens qui sont chargés de l'évaluer, trouvent qu'il est super. Et il passe de colonel à, globalement, il va devenir général deux ou trois étoiles en quelques mois, quoi. Mais pourquoi il est si bon ?
Alors, mais ça pourrait s'appliquer à d'autres domaines. C'est-à-dire que quand les gens sont bons, ils ont l'air de faire les choses naturellement. Vous voyez, un athlète olympique qui court le 100 mètres en un temps que nous ne réaliserons jamais, il a l'air de le faire naturellement. Un peintre, on a l'impression que ça vient naturellement, un grand romancier. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il est bon dans ce qu'il fait, et c'est très difficile de dire pourquoi il est bon, mais en tout cas, quand on lui confie une mission même complexe, il arrive au bout de la mission, on lui donne une mission, voilà, les choses se font de manière fluide, il a des bonnes idées qui vont faire que c'est bien mieux que ce qu'on avait pensé initialement.
Il froisse personne.
C'est-à-dire que ce qui est quand même important, c'est que c'est du travail en équipe, donc il arrive à ne pas froisser son chef, mais en même temps, il est agréable avec ses subordonnés, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et donc, c'est ce mixte. Et ce que disent tous, c'est qu'on lui confie une mission. La mission est faite. Elle est faite dans les délais. Et souvent, elle est mieux faite que ce qu'on avait pensé. Donc, c'est un mix de compétences, d'attitudes. Et puis, il faut peut-être le rappeler aussi, d'expériences accumulées. Parce que cet homme qui est né en 1990... En 40, il a déjà 50 ans et il est dans l'armée depuis 1911. Donc, il a quand même accumulé de l'expertise. Il s'est bonifié au fur et à mesure des missions qui lui ont été demandées de faire. Donc, on lui demande de faire un plan, on lui demande de mobiliser, on lui demande... il y a un nouveau camp qui sort de terre, il faut bâtir des tentes, trouver des habits pour les conscrits, les armées, organiser la formation. Il le fait. Voilà, il délivre, si on emploie un mot moderne. Et il râle pas, en plus.
Ike for president, Ike for president, Ike for president, Ike for president. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington.
We don't want John
or Dean
or Harry,
let's do that big job right. Let's get in step with the guy that's hep, get in step with Ike. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike for president. Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington. We got to get where we are going, travel day and night
for president.
Let Adelaide go the other way, we'll all go with Ike. You like Ike, I like Ike, everybody likes Ike
for president.
Hang out the banner, beat the drum, we'll take Ike to Washington. We'll take Ike to Washington.
Now is the time for all good Americans to come to the aid of their country.
On va arriver aux moments les plus identifiés à sa carrière, le débarquement de Normandie, avant ça l'opération Torch, l'Italie. Mais il y a sans doute un basculement. En février 1942, il est nommé à la tête du bureau des plans de guerre. Et donc, il va être en charge de ce qui va être finalement, Alexandre l'a dit, sa compétence principale, la planification. Une planification pour gagner la guerre. Pour gagner la guerre contre l'adversaire principal qui est l'Allemagne. Et là, il faut rappeler que c'est quelque chose qui n'était pas si évident pour l'opinion américaine et pour les décideurs, puisqu'on a été attaqué par le Japon, mais on choisit le théâtre allemand comme étant celui qui aura la priorité là où la guerre sera gagnée. Est-ce qu'on peut dire un mot des plans qu'il élabore et du fait que c'est là sans doute que se sont forgées ses convictions selon lesquelles la guerre devait être remportée en Europe contre l'Allemagne ?
Alors en fait, quand on regarde, il y a deux manières de penser au sein des états-majors américains. Je dis les états-majors puisque c'est l'éternelle question des relations entre l'armée de terre et la marine. Donc ça se double aussi de la question de savoir quel est le terrain principal. Est-ce que c'est le théâtre Asie-Pacifique ou est-ce que c'est le théâtre Atlantique ? Et on voit bien que pendant des semaines, c'est l'objet de débats, d'enjeux extrêmement importants au sein des forces armées américaines. Et ça se double avec des débats qui sont diplomatiques avec les Britanniques qui, eux, ont d'autres priorités, et en particulier l'espace méditerranéen.
Oui, mais ça, on peut rappeler qu'il va avoir ce paradoxe, et c'est là qu'on montre que c'est un bon gars, quoi. Enfin, il fait ce qu'on lui dit.
C'est
que depuis le début, lui, il dit qu'il faut débarquer en France. Et au final, c'est Churchill et les Anglais qui emportent en disant qu'il faut aller en Méditerranée. Et il va faire la Méditerranée, puis après, il fera la France. Mais il est docile, quoi.
Alors, il est docile. Alors, docile...
Non, docile.
Discipliné.
Discipliné. Docile, non, parce qu'en fait, il explose régulièrement, mais il n'explose pas en public. Hein. Et d'ailleurs, il écrit dans son journal intime « La pire des journées que les États-Unis aient jamais vécues, décision stupide, etc. » Mais c'est un officier qui estime que ses supérieurs ont décidé et qu'il faut... obéir, en rappelant qu'aux États-Unis, on n'est pas dans un pays militariste, et donc il y a un commandant en chef des armées qui est le président des États-Unis, et que les militaires obéissent aux civils. Et donc ça ne se discute pas. Et de toute façon, on sait bien que si on n'est pas d'accord, on va être réaffecté à un poste très subalterne. Il a en tête MacArthur et les Philippines, donc il se dit, de toute façon, si je râle trop, on mettra quelqu'un d'autre à ma place, et moi, je vais faire des travaux d'écriture pas très amusants à Washington, où il ne se passera pas grand-chose. Mais lui, en tout cas, il fait partie de ceux qui pensent que le théâtre d'opération principal doit être en Europe et que l'Asie-Pacifique doit être seconde, et que quand on regarde ce qui se passe au niveau du deuxième front, l'Europe occidentale et pas la Méditerranée. Et là, il est complètement raccord avec son chef qui est Marshall. C'est-à-dire que ils ont cette vision qui s'est forgée de l'expérience, des lectures, qui pour eux ne demandent pas de longs débats. Enfin, ils ne voient même pas où est la question. Alors que d'autres ne sont pas du tout sur cette ligne.
Alors les autres, c'est notamment les Britanniques. Et là, il faut composer avec des Britanniques qui sont engagés depuis plus longtemps qu'eux, évidemment, dans la guerre, ont déjà des troupes en Afrique du Nord, ont un canal de Suez à protéger, des intérêts impériaux à protéger. Et du coup, c'est tout le débat qui est bien connu entre eux, attaquer l'Allemagne par une stratégie périphérique, par, entre guillemets, le ventre mou du crocodile, selon la formule de Churchill, ou par le Nord-Ouest directement. Et ça, effectivement, vous l'avez dit, Eisenhower et les États-Unis ont perdu ce débat, où ils ont dû plutôt se ranger à l'option britannique, ce qui explique que la première grande opération qu'il prépare, c'est pas la première qu'il avait imaginée. Il avait plutôt imaginé une opération débarquement en France, ruée vers l'Allemagne. Et la première opération à préparer, c'est prendre pied en Méditerranée.
Oui. Et c'est, pour lui, c'est un véritable problème, mais il fait avec ce qu'il a. D'ailleurs, l'historien ne fait jamais de contre-histoire, mais est-ce qu'ils avaient les moyens de faire une première attaque comme ça, frontale, contre la France, même en 1943 ?
Oui, Dieppe suggère que ça n'aurait pas été si simple que ça.
Donc, c'est vrai qu'il y a cette dimension théorique, et puis militaire fait avec ce qu'il a, le terrain qu'il a, les réalités politiques qu'il a, et donc c'est aussi la capacité de s'adapter à une réalité et de faire avec les moyens et les contraintes de l'alliance avec les Britanniques, qui est une contrainte extrêmement forte. Il faut se rappeler que dans les premiers mois de la guerre, ceux qui ont les hommes et ceux qui ont l'expérience sont les Britanniques, c'est pas les Américains. Et c'est une des raisons qui explique d'ailleurs pourquoi Franklin Roosevelt va aller dans le sens des Britanniques, parce que alors, il faut les sauver après Tobruk, bien sûr, à un moment donné. Mais c'est surtout que, il n'y a pas suffisamment de militaires américains formés, il n'y a pas suffisamment de moyens en termes d'armement, de barges de débarquement, etc. Et que c'est peut-être la moins mauvaise des solutions d'aller débarquer en Afrique du Nord. Et ça permet, on l'espère, d'avoir une victoire facile. Et on l'espère, si elle pouvait arriver avant novembre 1942 et les élections législatives, ça aurait été merveilleux.
Mais là, on va voir en fait toute sa capacité de diplomatie qui est énorme. Enfin, ça peut se voir avec plein de monde, mais déjà le fait que personne ne le déteste, notamment chez les Britanniques, enfin, ça explose. Bon, parfois, en vous lisant, je pensais qu'est-ce que ce serait passé si Patton était là, à sa place, mais ça n'explose jamais quand il est en Grande-Bretagne. Et puis surtout, il y a un angle qui est un peu franco-français, mais pour comprendre ça, qui est marrant, qui est de le voir négocier avec Giraud, Darlan, De Gaulle.
Déjà, on voit que, bon, il n'est pas. C'est d'ailleurs un petit problème, parce que lui, il n'avait pas particulièrement de problème à l'idée que Darlan ait les pleins pouvoirs en Afrique du Nord. Bon, c'était pas. Voilà, hein, c'est plutôt bien vu de sa part. Non, et surtout, on le voit négocier avec Giraud et De Gaulle, et on sent qu'il y a un truc de diplomatie humaine assez fort chez lui, parce que vous mettez en parallèle ce qu'il écrit de De Gaulle et ce que De Gaulle écrit de lui, et c'est fascinant, parce que. Il prend De Gaulle globalement pour un imbécile et ouais. pour un allumé. Et De Gaulle est persuadé que c'est son plus grand partisan et qu'il est à fond pour lui et que jamais il se compromettra avec Giraud. Alors que vraiment, Eisenhower n'est jamais pour De Gaulle dans cette affaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix.
Et je trouve que c'est fascinant de lire De Gaulle et de lire en parallèle Eisenhower. Et la même scène donne lieu à des descriptions diverses, des citations pas toujours raccord. Et on voit bien qu'en fait, autant pour De Gaulle, il y a évidemment une centralité, une importance des Américains, autant pour les Américains, en particulier pour Eisenhower, ces Français sont souvent une source de problèmes, et notamment les divisions entre les Français. Alors que lui, il aimerait bien avoir quelqu'un, un interlocuteur avec qui parler. Et là, voilà. Et il
va essayer avec Giraud et puis il va
oui,
le rencontrer
alors,
une fois. Il
très
va s'apercevoir
vite, hein,
que rencontre... ça n'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Ce c'est pas du tout possible. Et on voit bien que. En fait, ces divisions françaises, il les perçoit comme quelque chose qui le ralentit dans ce qui doit être ses opérations militaires. Et on le voit bien en novembre 1942, sa difficulté, c'est qu'il aimerait être en Tunisie en train de combattre, mais qu'en fait, il règle des questions internes. Et ça va être un leitmotiv qui va l'occuper pendant quasiment toute la durée de la guerre. Alors, au début de l'année, au début des opérations militaires, il arrive assez naïf, c'est-à-dire que il a eu des briefings de la part des autorités américaines. On lui a dit une chose, ne jamais communiquer à De Gaulle la moindre information. Ça, c'est le point fixe toute l'année, tout le long de la guerre. Et puis quand même, comme il est intelligent, au fur et à mesure du temps, il prend conscience quand même que dans ces différents acteurs français, il y a quand même un acteur incontournable, qui est le général de Gaulle. Et il comprend évidemment qu'ils n'ont pas la même ligne politique, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais que de Gaulle, c'est l'homme incontournable. Et donc finalement, voilà, de Gaulle l'énerve beaucoup. À un moment où il a cette phrase, il dit qu'il a eu deux gros problèmes pendant la guerre, la météo et les Français, sous-entendu le général de Gaulle. Mais il comprend que de Gaulle est un militaire et un politique et que... voilà, c'est quelqu'un qu'il respecte et avec qui il aura des discussions souvent difficiles, mais sous une forme de respect mutuel.
Et il le fait aussi parce qu'il y a une autre caractéristique très intéressante qui relève un peu de cette modernité du commandement d'Eisenhower dont on parlait, et du fait qu'il commande une armée des États-Unis qui sont un pays démocratique avec une presse libre, c'est que Eisenhower fait partie de ces rares chefs de guerre qui font des conférences de presse, qui se justifient devant les journalistes, et donc il a beau avoir pensé que le Darlan Deal, hein, l'expédient Darlan, était utile dans un premier temps, il sait aussi que ça a des effets négatifs sur l'opinion publique aux États-Unis, donc il peut pas se permettre entièrement de traiter les choses uniquement avec les logiques militaires. Il faut tenir compte de l'opinion, il faut tenir compte de la sympathie de certains milieux pour la France libre, etc. Autrement dit, c'est quand même quelqu'un soucieux d'équilibre globaux, équilibre stratégique et équilibre aussi de relations publiques.
Alors c'est vrai que ça avait très mal commencé, hein, parce que l'histoire de l'accord avec Darlan, lui-même a beaucoup de mal à voir où est le problème et il met beaucoup de temps à comprendre. Ça c'est pas... à sa gloire, hein. C'est quand même un des rares points qui marche pas dans ces années-là. Et il est sous pression, parce que la presse est libre, hein, vous le rappelez très justement. Et là, c'est son frère qui le sauve d'une certaine manière, puisque son frère est le numéro 2 du service fédéral en charge de la communication pendant la guerre, hein, l'OWI, qui va faire tout un travail de relations publiques pour expliquer que finalement, cet accord n'est pas si mauvais, que c'est un expédient qui doit durer juste le temps nécessaire, qu'on va passer à autre chose, etc. Et donc, Et il apprend à son corps défendant que voilà, il faut communiquer, mais il faut aussi être raccord avec les raisons pour lesquelles on combat. Et donc cette idée que quand on est une démocratie, on combat pour la liberté, on combat pour des valeurs et on ne va pas s'associer à n'importe qui. Et ça, il a du mal au début, parce que lui, il est quand même dans une logique très « je dois avancer, je dois gagner, et peu importe avec qui je fais affaire ». Alors ça va s'améliorer assez vite, mais le premier contact est rugueux, on va dire ça comme ça.
Toujours sur cette dimension un peu démocratique du commandement, alors c'est aussi une construction évidemment qu'il fait dans ses mémoires, mais on sait qu'il a été très attaché à passer du temps auprès de la troupe, à faire des visites au front, à discuter beaucoup avec le soldat ordinaire en disant il faut que dans une démocratie, dans une armée d'une démocratie, que la parole aille du bas vers le haut et pas seulement du haut vers le bas.
Il faut bien qu'il se renseigne sur à quoi ça ressemble un front aussi.
Il y a aussi ça, il faut évidemment avoir ce retour d'expérience, mais c'est quelqu'un qui insiste sur l'importance du contact avec les soldats et en tout cas de montrer une familiarité avec les soldats. Alors, sans doute aussi à des fins d'autopromotion. Voilà, un chef proche de ses hommes, on sait que c'est un outil de légitimation du commandement, mais c'est quelque chose qui est une constante, malgré tout, pendant toute la campagne d'Afrique du Nord, d'Italie et d'Europe.
Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux. La question de pourquoi nous combattons, hein, ça c'est plus une construction de l'État américain qui a des conscrits. Et donc, il faut que ces conscrits comprennent le sens du combat. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait par des campagnes d'information générale auprès de la population civile, mais aussi plus spécifiquement dans les camps, sur le terrain, etc. Je ne suis pas sûre que lui estime forcément que ça soit la priorité numéro un. C'est-à-dire que lui, son objectif, c'est quand même de gagner la guerre. Et donc, il adhère au principe de la démocratie, il adhère au but de guerre, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de son commandement. Par contre, ce qu'il aime, c'est le contact, c'est le terrain. Et à chaque fois qu'il a ses affectations, avant de devenir le commandant-chef qu'on connaît, lui, il veut une affectation sur le terrain, il veut diriger un régiment. Et il le dit, il a un épisode assez rare où il est dans cette fonction, il est le plus heureux des hommes. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il fait la tournée des popotes, il va voir comment ça marche, il discute avec l'homme de troupe. Il est heureux quand il est dans cette situation. Et il n'est pas heureux derrière un bureau.
Mais
et là, voilà, ça, c'est son petit moment de bonheur. Voilà,
et plus le temps passe, plus ça devient improbable.
Ben
parce
oui,
que
forcément.
En plus, ils sont obligés de le promouvoir, ils sont obligés de lui vous le racontez très bien, c'est tout à fait intéressant, ils sont obligés de lui rajouter les étoiles à chaque fois parce que en fait, les Britanniques qui sont sous son commandement sont plus gradés.
Ah oui.
Donc, il est obligé de prendre des étoiles et il finit par en avoir beaucoup. Et donc, en fait, plus le temps passe, moins il est probable qu'il commande un jour quelqu'un au feu, ce qui n'arrivera donc finalement
jamais.
Et on arrive donc à cette situation. Alors on est obligé d'aller vite parce que on peut parler du débarquement, mais le débarquement, lui, il est surtout sur la planification. Et
tant qu'il n'est pas là.
Elle est plutôt bonne, donc voilà. Mais ensuite, là où c'est intéressant, c'est que ça va se déployer dans ses choix aussi quand on va. Alors il y a la conquête de la France, etc., etc. Puis ensuite, quand on va arriver en Allemagne, il va être mis face à des choix. Et notamment un choix qui va être assez crucial parce que ça va lui être beaucoup reproché, ça va être de laisser Berlin aux Soviétiques. De laisser.
Alors, en tout cas, de ne pas faire en sorte de les empêcher parce qu'il n'était pas sûr non plus qu'ils y arrivent avant. Hein. C'était même assez improbable. Mais en tout cas,
de ne
pas faire la course.
Mais ce qui est assez conforme par ailleurs avec l'image qu'il aura toujours des Soviétiques, c'est. Enfin, pas toujours. Parce que c'est aussi le paradoxe, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ça va être.
Deuxième émission.
Ça va être le président de la guerre froide. Paradoxalement, au départ, il est plutôt d'accord avec l'idée que les Soviétiques ont quand même fourni l'essentiel du travail et qu'il voit en eux des partenaires. C'est pas Churchill, quoi.
Non. En sachant que, il faut le préciser, Eisenhower dans l'entre-deux-guerres est plutôt un conservateur. Donc on peut pas le taxer qu'il soit séduit par les idées de l'URSS. Ça c'est pas du tout le cas. Mais il considère que les Soviétiques sont des frères d'armes, que Joukov, est aussi important dans le dispositif qu'un Montgomery.
C'est marrant d'ailleurs parce que vous racontez un épisode qui a l'air lunaire, mais il va se faire décorer par Joukov à Moscou de je ne sais plus quel ordre soviétique. Enfin, c'est un
Et il est reçu par Staline.
Quand on y pense à 5 ans après, ça, c'est complètement lunaire, mais c'est ça qui se passe en 1945.
Oui. Et donc, il est dans l'idée que matériellement, de toute façon, il ne pourrait pas aller jusqu'à Berlin, que c'est les Soviétiques qui sont les plus avancés, qu'il y a eu Barbarossa, donc ça serait légitime que la prise de Berlin, ça soit les Soviétiques. Et là, il court-circuite un peu tout le monde en mettant les autorités politiques devant le fait accompli. Churchill en est très énervé par cette situation parce que on lui a pas demandé son avis, il n'y a pas eu de débat politique, mais c'est une décision militaire d'Eisenhower qui s'est émancipée et qui a dit mes troupes n'iront pas plus loin là que là et nous laissons les soviétiques libérer Berlin. Donc c'est un moment tendu et qu'on lui reprochera d'ailleurs par la suite, hein, notamment lorsqu'il sera candidat à la présidentielle en 1952, en lui disant « voilà un homme vendu aux soviétiques, regardez les photos avec Joukov, regardez Staline, etc. »
Changement d'ambiance, évidemment, entre et les deux périodes. Évidemment, on laisse de côté, faute de temps, mais aussi parce que c'est ce qui est le plus connu, le débarquement et une série d'épisodes de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un point quand même sur lequel je voulais vous poser une question, c'est la toute fin de la guerre, la découverte des camps, et du coup le lien que ça a aussi avec la dénazification. Parce que la dénazification, bon, il y a un livre récent d'Emmanuel Droit qui vient de sortir, c'est un sujet qui est toujours débattu. Eisenhower fait plutôt partie des gens très sévères. Et voilà, quel lien on peut faire avec sa propre expérience en Allemagne, pendant la guerre, au lendemain immédiat de la guerre.
Alors, c'est vrai que la découverte des camps est un choc pour lui. C'est-à-dire que quand les Américains libèrent leur premier camp, les rapports remontent, il les lit, il ne croit pas ce qu'il lit, tellement c'est choquant. Et il décide d'aller sur le terrain constater de visu. Alors, les scènes sont extrêmement violentes. Il raconte d'ailleurs que son ami Patton, qui est quand même un dur à cuire, est malade à la vue de ses corps décharnés. Lui est choqué aussi. Donc, il va décider... Alors, il fait un rapport circonstancié à sa hiérarchie. Il demande que les soldats américains qui sont dans les secteurs des camps aillent visiter les camps pour voir d'eux-mêmes. Il va aller témoigner devant le Parlement à Londres, avec cette idée de dire, voilà, il faut que les gens voient pour que, dans quelques années, il n'y ait pas des gens qui disent, ça ne s'est pas passé. Vous avez inventé. Et donc, il est vraiment dans cette idée du témoignage. Et il va être de ceux qui va porter cette dénazification, même si, finalement, ça va être sur une période assez courte, hein, puisqu'il va être rappelé aux États-Unis dès novembre 1945. Donc, il n'a pas vraiment beaucoup le temps de faire les choses. Mais il faut se rappeler que cette dénazification va signifier la fin de son amitié, de 25 ans d'amitié avec Patton, puisque lui, Patton, estime que l'ennemi, c'est pas les nazis, c'est les soviétiques.
Oui, et qui, ils n'auront jamais le temps de se réconcilier, puisque non. Patton va mourir dans un accident de voiture peu après. Mais alors, donc, il va revenir à... Il faut peut-être entrer vers cette dernière période, qui est une période un peu différente... Et je ne parle même pas de la présidence, mais juste le moment où il va revenir aux États-Unis, où il va être donc chef d'état-major, et il va avoir pas la tâche la plus amusante du monde, c'est-à-dire il va falloir détricoter toute l'armée qu'il avait imaginée, enfin qu'il avait contribué à mobiliser. Et puis, bon, ça va être le début d'une phase un peu différente de notabilité pour lui. Il va se mettre à jouer au golf, fréquenter des millionnaires. Enfin, ça va pas être tout à fait le même mode de vie après 45, et ce qui va, in fine, plutôt pas mal lui réussir, puisque ça le portera à la présidence.
Oui, en fait, il est en fin de carrière. Hein. Il s'interroge d'ailleurs dès 45 sur ce qu'il va faire après. Hein. Il envisage la retraite, comme toute personne qui est à ce stade de sa vie. Chef d'état-major qui est normalement l'apothéose d'une carrière, pour lui, ça ne l'est pas. Hein. Finalement, c'est son commandement en chef qui l'aura été. Il trouve que c'est très ennuyeux, que c'est très administratif, que c'est très conflictuel, hein, puisqu'il faut démobiliser, donc les moyens diminuent. Donc, c'est pas un environnement qu'il apprécie particulièrement. Il a ce moment qu'on oublie souvent où il va être élu président de Columbia, hein, l'université. Et puis, finalement, ce qu'il vit comme une deuxième jeunesse, c'est quand l'OTAN est créée et qu'on fait appel à lui pour prendre le commandement des forces armées. Et donc là, il retrouve du sens d'une certaine manière.
Et ça, c'est encore, enfin, j'allais dire, c'est encore les Philippines, mais oui, un peu. C'est toujours sa même compétence qui est.
C'est ça, la diplomatie.
Il sait organiser, il sait structurer des forces et il sait aussi être diplomate par rapport à tous les égos qui est autour de lui.
Et c'est vraiment cette idée de la coalition, c'est-à-dire de créer des équipes qui est quand même une dimension nouvelle de la guerre moderne et qui est indispensable. Et on le voit bien sur la question de l'OTAN aujourd'hui. Voilà, l'OTAN est quelque chose qui est très important à la fin des années 40, en même temps qu'il n'a pas de moyens et qui doit dépasser des oppositions politiques, notamment parmi les pays européens.
On ne peut évidemment pas résumer deux mandats présidentiels en quelques minutes, mais on peut au moins peut-être pointer un paradoxe, qui est que c'est un président militaire, militaire de carrière, ce qui n'est pas si courant aux États-Unis, mais pas militariste. Et finalement, pendant sa présidence, c'est beaucoup plus les opérations secrètes et le nucléaire qui ont été des points forts de sa politique extérieure et militaire que les forces conventionnelles qu'il a lui-même forgées, dirigées pendant des années. Finalement, l'outil militaire... passe presque au second plan durant les années Eisenhower. En tout cas, c'est pas un militariste, bien qu'il soit militaire.
Alors c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas militariste fait qu'il est en accord avec le pays. Ça, c'est extrêmement intéressant hein, d'avoir cette idée que finalement, ce n'est pas les militaires qui font la politique du pays, mais qu'ils sont les bras armés au service d'une démocratie, avec parfois des ratés, hein, on le voit bien, et notamment comment on va adapter cette force militaire aux nouvelles réalités de la guerre froide. Vous l'avez dit, hein, c'est la nucléarisation qui est un élément fondamental, et cette nucléarisation, elle va permettre de réduire les forces conventionnelles, et donc on estime qu'elle va avoir un effet budgétaire. Alors très vite, on va se rendre compte que ça ne marche pas exactement.
Oui, ça coûte très cher
ça
aussi.
Ça coûte très cher aussi, mais ça, on n'en a pas complètement conscience à ce moment-là. Et puis l'autre dimension, c'est la politique du secret, hein, c'est-à-dire comment cette CIA qui est créée en 1947 dans la loi sur la sécurité nationale, Eisenhower imagine de l'utiliser de manière non prévue par la loi, c'est-à-dire pour aller renverser des gouvernements légitimes. Et là, on voit bien qu'il y a un décalage entre le discours, ce que je disais tout à l'heure, pays non militariste, les civils dominent les militaires, etc., et puis cette idée qu'on va renverser un gouvernement d'un pays étranger qui n'est quand même pas le comble d'une démocratie. Et donc ça fait partie des, on va dire, des zones d'ombre des gens et des personnages. Comment quelqu'un qui est le président d'une démocratie portée par des valeurs comme ça a pu imaginer ce rôle pour la CIA? On l'imagine plutôt dans la peau de Richard Nixon, vous voyez, ce genre d'invention. Bah là, non.
Ouais. Après, il raffole de Nixon qui est son vice-président. Donc,
oui, alors raffolé...
Oh, il est Nixon compatible.
Voilà, il est Nixon compatible.
Mais enfin, tout dernier moment, mais parce que c'est un moment qui est important et qui est étrange, qui est très intriguant au sujet d'Eisenhower, ouais. C'est ce dernier discours.
Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes.
Oui.
Qui est extrêmement bizarre parce que donc c'est un président militaire qui a bien fort contribué à forger le complexe militaro-industriel, puisqu'il travaille avec les industriels depuis 20 ans. Il a vraiment fait cette soudure, cette incorporation, disons, de l'outil industriel dans l'appareil militaire américain, qui a décuplé de volume. Par ailleurs, c'est quelqu'un de l'establishment, c'est quelqu'un qui joue au golf avec des millionnaires, et c'est vrai, quoi. Il a une vraie proximité par rapport à eux, et d'ailleurs, ils sont largement dans son cabinet, son premier cabinet. Et il y a ce dernier discours où il dénonce le complexe militaro-industriel et les dangers, en tout cas l'influence indue qu'elle ferait peser sur la démocratie américaine, ce qui encore aujourd'hui est un discours iconique pour les gens qui dénoncent, disons, les États-Unis, voire même l'Occident global, etc. Vous voyez, même Eisenhower le disait en 1960. Comment vous le comprenez? Comment vous le comprenez, ce dernier discours?
Alors, il est difficile. Hein. Je crois qu'il faut d'ailleurs le replacer dans la grande séquence des discours d'adieu des présidents depuis George Washington. C'est une sorte de testament politique, de réflexion liée aussi à la conjoncture. Hein. En ce début des années 60, on sent bien qu'il y a des points de difficulté qui sont en train d'émerger en Asie du Sud-Est, en particulier au Laos. Et donc, cette inquiétude de savoir... est-ce que la guerre ne pourrait pas nous entraîner plus loin qu'on ne l'imagine? Alors pourquoi de conjoncture? Parce qu'il faut se rappeler qu'il laisse la place à un nouveau président qui s'appelle Kennedy, qui est un homme inexpérimenté hein, sur beaucoup de sujets, et dont Eisenhower considère que c'est quelqu'un qui s'emporte facilement et qui est un peu chien fou. Et donc, le discours s'adresse pas vraiment sur le complexe militaro-industriel, mais plutôt de dire attention à la manière dont on emploie les forces armées américaines, à ne pas se laisser entraîner dans des engrenages qu'on ne maîtrise pas. Prudence, hein, c'est plutôt cette dimension. Et alors, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est qu'à la fin des années 60, quand il y a le débat sur la guerre du Vietnam et que l'opposition à la guerre du Vietnam monte, finalement, les gens dénoncent le complexe militaro-industriel, mais Eisenhower, lui, est sur la position de défendre l'engagement. Donc il y a une contradiction. Je pense que son discours l'a amené plus loin que ce qu'il avait imaginé. Mais en tout cas, il dit bien quelque chose d'un changement profond qui a marqué la relation entre les forces armées et le monde de l'économie, en sachant que le Pentagone, c'est quand même un des gros... C'est l'un des plus gros budgets aux États-Unis déjà à cette époque-là.
Dernière question un peu rhétorique. Est-ce qu'il reconnaîtrait le Parti républicain actuel et son rapport à l'OTAN, d'ailleurs ?
Je crois que ma réponse va être rapide. Non, il ne s'y reconnaîtrait pas du tout. C'est d'ailleurs un de ses échecs politiques, c'est-à-dire qu'il avait pensé recentrer le Parti républicain dans un parti très internationaliste. Et en fait, on voit bien qu'en 1960, c'est les conservateurs qui continuent d'avoir la main au sein de ce parti. Et les années qui vont suivre ne vont faire que corroborer cette dimension. Mais je pense qu'Eisenhower aurait du mal à voter pour un candidat républicain en 2024.
Mais au demeurant, son affiliation avec le Parti républicain était tout éphémère et conjoncturelle. Enfin, c'était pas... Quand il est élu président, enfin, on ne peut pas dire qu'il ait manifesté un énorme engagement politique. Ses premières positions politiques de jeunesse étaient plutôt démocrates d'ailleurs. C'était...
Oh, oui, mais un peu par accident et par maladresse, sa première intervention. Non, il est quand même républicain de cœur. Hein. On le voit quand même sur ses prises de position sur les questions sociétales. Mais d'un républicanisme modéré et bien élevé. Et donc, ce qu'il n'aime pas, c'est les positions très, très clivées, tranchées. Donc, c'est plutôt cette dimension du parti, je crois, qui ne le satisferait pas.
Merci beaucoup, Hélène Arthel.
Merci à vous.
On va rappeler donc les références de cet ouvrage, cette biographie d'Eisenhower, le chef de guerre devenu président, paru aux éditions Talendier. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par André Loez et Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio. Je rappelle que toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux du Rubicon, d'André ou de moi-même. Tout ça est toujours grandement apprécié, tout comme notes, appréciations et suggestions sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Merci à toutes et tous. Et à la prochaine fois.
Sometimes the transition to fall and winter feels like experiencing every season on the same day. The shoes in the Allbirds Mizzle collection were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Check off your errands with the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Wool Runner-Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.